Non, eh bien, je vais vous le dire. J'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir à un homme de la Bible, un homme dont on ne parle pas après, mais qui, je pense, a un certain nombre de leçons à nous apprendre aux uns et aux autres. Nous vivons dans un monde où les hommes recherchent une place. Ce n'est pas nouveau. Si vous regardez dans la parole de Dieu, vous vous apercevez qu'il y a là, ici ou là, des hommes qui ont voulu se faire une place. Un Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui à un moment donné se promenait sur les remparts de la ville et qui se disait « voilà, c'est moi qui ai construit tout cela ». Ça va lui valoir de passer quelque temps à la campagne, à quatre pattes, comme un animal. Hérode, non pas celui qui a fait tuer les enfants, non pas, mais celui à l'époque de Jésus, qui un jour est dans la ville de Tyr. Et il parle aux gens, et les gens disent de cet homme, « Ah, ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu ». Et cet homme va mourir rongé par les vers. Ou un Saul de Tarse, qui se prenait pour l'expéditeur pour renier tous ceux qui se proclamaient de Christ, et qui, lui, n'est pas mort, mais est devenu cet apôtre de la vie. Même les disciples, à un certain moment, alors que Jésus venait de leur annoncer à plusieurs reprises qu'il montait à Jérusalem pour être crucifié, cherchaient à savoir qui allait être celui qui allait être assis à sa gauche et à sa droite, celui qui était le plus grand. Sans compter dans le monde dans lequel nous vivons, où des hommes ont laissé dans l'histoire un certain nombre de choses. On pense à un Jules César, à un Hitler qui se prenait pour le sauveur du monde avec une nouvelle nation, un Kim Jong-un qui avait ses photos en Corée, qui a des tas de statues, un Staline en Russie. Ou alors un Samuel Colt, celui qui a inventé le fameux pistolet, et qui disait « J'aimerais que le monde se souvienne de moi » parce que j'ai rendu tous les hommes égaux devant la mort avec son fameux pistolet. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que celui qui veut être grand doit être serviteur. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit qu'il doit être le serviteur de tous. Et j'aimerais ce matin que vous puissiez avoir dans le livre des Actes votre Bible ouverte, parce que nous allons faire un voyage avec un de ces hommes. Et à plusieurs reprises et de plusieurs points de vue, Philippe va nous servir d'exemple ce matin dans notre vie, je l'espère. D'abord, nous ouvrirons notre Bible dans le livre des Actes au chapitre 6. Je vous rappelle le contexte, il y a là l'Église qui a voilé le jour, il y a là des gens qui se convertissent, 3000 puis 5000, il y a même des sacrificateurs qui se convertissent, et il y a un gros problème dans l'Église. Et nous lisons à partir du verset 1er au chapitre 6 du livre des Actes. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timnon, Parménas, Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent leurs mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait à Jérusalem beaucoup, et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Il y a là un problème dans l'Église. Et ce n'est pas l'Église de Jérusalem qui est la reine des problèmes. Je pense que vous le savez comme moi. Dans chaque Église, il y a des problèmes, et du moment où je suis dans l'Église, il y a des problèmes. Et donc il y a là une difficulté, parce qu'il y a, dans cette Église déjà du 1er siècle, il y a là des gens d'origine juive, et puis il y a des gens d'origine païenne, des gentils comme on les appelait à l'époque, d'origine grecque, et il y a un petit peu problème parce que les veuves d'origine grecque semblaient être délaissées par rapport, ou en tout cas c'est ce qu'elles croyaient, par rapport à celles qui étaient juives. Et donc les disciples qui avaient charge de propager la parole de Dieu demandent à l'Église de nommer des gens. Et j'aimerais que nous puissions voir Philippe en quatre étapes dans sa vie, avec un leitmotiv, c'est le mot « disponible ». Et nous voyons qu'il y a là, donc, suite à cette difficulté dans l'église de Jérusalem, une proposition des disciples de choisir des hommes, et de choisir des hommes pour qu'ils puissent servir aux tables. Et vous remarquez que c'est assez intéressant de voir que le choix de ces hommes est un peu spécial. On aurait pu dire, nous en tout cas, voilà, nous recherchons des gens qui savent bien mettre la table, qui savent bien servir à table, qui passent entre les chaises de manière un peu acrobatique. Et vous remarquez que dans le texte biblique, les qualités qui sont demandées à ces hommes qui vont servir aux tables ne sont absolument pas des qualités pratiques, mais au contraire, des qualités bel et bien spirituelles. Et je trouve assez intéressant de voir qu'il y a là quelque chose d'important pour chacun d'entre nous, parce que souvent, nous mettons les choses un petit peu différentes. Nous voulons des gens qui ont... sont doués oui, peut-être à la musique, qui sont doués peut-être pour faire des gâteaux ou je ne sais quoi, etc. Alors que vous remarquez que les trois critères de sélection de ces sept hommes qui vont servir aux tables, quelque chose de tout à fait pratique et de tout à fait concret, sont d'une part que l'on rende un bon témoignage de ces gens, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes, parce qu'ensuite il y aura des femmes qui seront appelées diaconesses, qui vont avoir une position honorable dans le monde dans lequel ils sont. Et non seulement cela, mais il faut qu'ils soient pleins d'Esprit Saint, donc soumis à la parole de Dieu, spirituels, et qu'ils soient pleins de sagesse. Des critères qui, sans doute, peut-être nous dépassent un petit peu dans la question pratique des choses. Mais nous voyons ces gens qui vont être nommés, et vous avez la liste des sept qui ont été nommés, dont ce fameux Philippe. Et première chose que j'aimerais soulever, c'est que Philippe était disponible pour le service. Vous remarquez que ces hommes, en tout cas pour cinq d'entre eux, on n'en parle plus. Étienne, on va en parler par la suite, puisqu'en particulier, il va se présenter devant le Sanhédrin et il va faire cette merveilleuse résumé de l'histoire du peuple d'Israël en montrant justement que Dieu était là malgré le fait que le peuple d'Israël l'a abandonné. Et vous savez ce qui arrivera à Étienne, il va être lapidé, et tout joyeux d'être lapidé en levant les yeux au ciel, il va voir son sauveur. Et puis Philippe, disponible pour servir aux tables. Alors nous avons après dans les épîtres pastorales, en particulier dans l'épître de Timothée, nous avons encore d'autres caractéristiques de ceux qui accomplissent des tâches pratiques. Hein, il faut qu'ils soient respectables, éloignés de la duplicité, éloignés des excès du vin, éloignés des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi, qu'ils doivent être éprouvés, maris d'une seule femme, bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Si on devait aujourd'hui nous réclamer tout cela, je crois que personne ne pourrait servir dans l'Église. Parce qu'à certains niveaux, on n'est pas au top. Et pourtant, le Seigneur choisit ses hommes. Et entre autres, choisit ce Philippe. D'ailleurs, la Bible après va nous parler d'une Phoebé, d'une Évodie, d'une Syntyche, d'une Prisca, qui vont elles aussi accomplir des choses absolument magnifiques dans l'œuvre du Seigneur. Et nous voyons donc cet homme, Philippe, qui va servir aux tables. Et ce n'était pas des petites tables à l'époque, sans doute, par rapport au nombre de personnes qui sont mentionnées comme étant converties à Jésus-Christ. Il y avait là beaucoup de services, beaucoup de choses pratiques, et quasiment pas être devant. Et d'ailleurs, les disciples disent, nous allons nous consacrer au ministère de la parole et à la prière. Et ces sept qui sont choisis sont, eux, consacrés pour le service. Et je trouve assez remarquable que dans un des premiers critères, par rapport à ce Philippe, c'est qu'il est prêt à servir. Prêt à servir à des tâches tout à fait pratiques et tout à fait concrètes. Alors la question que nous pourrions nous poser, pour faire une première application dans la vie de chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes de ceux qui pensent que nous sommes disponibles pour servir ? Disponibles pour servir dans l'Église de Jésus-Christ ? Parce que l'Église de Jésus-Christ, je l'ai entendu en tout cas dans un certain nombre de prières et dans plusieurs paroles, c'est une famille dans laquelle nous devons nous servir les uns des autres, dans laquelle nous devons être là à côté des uns et des autres pour accomplir un ministère caché mais pratique. Quel est ton service dans l'Église ? Est-ce que tu es là simplement pour consommer ou est-ce que tu es là pour servir, disponible au Seigneur pour servir? Et nous voyons Philippe qui sert. Bon, après, on n'en parle plus. Si ce n'est que nous retrouvons Philippe, et je vous invite à continuer, au chapitre 8 du livre des Actes. Il y a là Étienne qui meurt, il y a là une persécution qui est engagée contre les chrétiens, et nous retrouvons Philippe, justement, il nous est dit au verset 1er du chapitre 8, « Ce jour-là, une grande persécution éclata. » Vous vous rappelez, Saul de Tarse, que nous reverrons par la suite, était là et a approuvé le meurtre d'Étienne, et d'ailleurs les gens ont mis à ses pieds les vêtements lorsqu'ils étaient en train de lapider Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Deuxième disponibilité pour Philippe, c'est la disponibilité de la prédication. Vous remarquez que sa première fonction était de servir, quelque chose de tout à fait pratique et concret. Mais ici, nous le retrouvons dans cette ville de Samarie, nous le retrouvons pour prêcher la parole de Dieu. Vous vous rappelez d'ailleurs, le Seigneur, avant de remonter auprès de son Père, avait dit à ses disciples qu'il devait être témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous vous rappelez aussi que la Samarie, c'était un endroit pour les Juifs qui n'était absolument pas évident. Vous vous rappelez, un Samaritain, c'était demi-païen, demi-juif. Les Juifs, en tout cas, ne les aimaient pas du tout. Et nous voyons ici Philippe qui va prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville de Samarie. C'est assez intéressant de voir que quand on est disponible pour de petites choses ou de grandes choses, parce que servir aux tables était sans doute quelque chose de grand, le Seigneur donne aussi à Philippe la possibilité de prêcher l'Évangile. Et il y a, voilà, tous entendaient parler de signes. Il y a des choses qui se passent dans cette ville de Samarie. L'Évangile est ouvert pour les Samaritains. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la manière dont Herbert Hoover, qui a été président des États-Unis, il a commencé sa carrière. Mais il y avait là un ingénieur qui s'appelait M. Janin, qui cherchait un secrétaire dactylographe. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a même des données vocales où on n'a plus qu'à parler à l'ordinateur et il écrit tout seul. Mais à cette époque-là, il fallait taper à la machine. Et donc, il y a un jeune qui se présente à lui et qui lui dit « Voilà, je suis prêt et je veux bien prendre ce poste. Mais je ne peux revenir que mardi prochain. » Et donc, cet homme dit « D'accord, je vous attends mardi pour votre nouveau travail. » Et lorsqu'il se présente le mardi suivant, au travail, Jana lui demande, donc l'ingénieur, « Mais au fait, pourquoi m'avez-vous dit que vous seriez disponible que mardi prochain ?» Et cet homme de répondre simplement, « Il m'a fallu une semaine pour apprendre à taper à la machine. » C'est-à-dire qu'il avait eu le courage de répondre à un appel, à une demande de travail, alors qu'il ne savait pas taper à la machine, et en une semaine, il a pris le temps de pouvoir se former. Philippe ne savait peut-être pas, il n'a pas suivi X cours de prédication, mais n'empêche que Dieu va l'envoyer pour prêcher la parole de Dieu dans cette ville de Samarie. Et vous vous rappelez d'ailleurs, les Samaritains n'étaient pas tellement aimés de la part des Juifs. Jésus d'ailleurs a raconté cette fameuse histoire de ce Samaritain, de ce bon Samaritain qui a pris soin de ce Juif qui était sur la route laissé pour mort, alors que les bons Juifs, les bons sacrificateurs, les bons scribes étaient passés au loin et n'avaient pas pris la peine de prendre soin de cet homme. Pour nous montrer aussi que le Seigneur aime tous les hommes. Et donc Philippe va arriver, va prêcher l'Évangile, et il y a des tas de gens qui vont se tourner vers le Seigneur. d'un service tout à fait pratique et concret, Philippe est disponible pour prêcher quand le Seigneur le lui demande. Alors aujourd'hui, nous ne risquons pas d'être lapidés pour les paroles que nous pouvons prononcer, pour le témoignage que nous pouvons apporter autour de nous, mais est-ce que nous sommes prêts à être des témoins vivants de l'Évangile de Jésus-Christ ? Non seulement par notre attitude, mais aussi par les paroles que nous pouvons prononcer, que ce soit pour nos voisins, que ce soit pour nos collègues de travail, que ce soit pour des gens que nous rencontrons dans la rue. Philippe aurait très bien pu dire au Seigneur, « Mais écoute, je suis qu'un diacre, je suis que quelqu'un qui peut servir. » Mais Dieu a voulu se servir de Philippe pour apporter le message merveilleux de l'Évangile de Jésus-Christ. Et puis nous savons que lorsque les nouvelles remontent à Jérusalem et que l'on apprend qu'il y a là une église qui s'est formée à Antioche, les disciples de Jérusalem ne sont pas tout à fait contents et ils envoient Pierre. Et Pierre qui va ensuite être le porte-parole de cette église qui voit le jour, d'ailleurs qui ensuite sera une église qui va aller de l'avant pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à être disponibles pour le Seigneur pour nous impliquer dans le témoignage verbal. Ou est-ce que nous disons, ça appartient entre guillemets à ceux qui sont évangélistes ou à ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Nous pouvons être les uns et les autres, des prédicateurs de la parole de Dieu, déjà par la manière dont nous vivons, mais aussi par le fait que nous pouvons dire, comme cet Iron disait, j'étais sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé. Donc disponible pour le service, disponible pour la prédication, et nous retrouvons Philippe un peu plus loin. Au verset 26, tout marche bien, il y a là une église qui voit le jour, il y a là un ministère que Philippe est en train d'avoir, il y a même un ministère quasiment de pasteur que Philippe est en train d'avoir, et voilà que tout d'un coup, le Seigneur lui demande quelque chose d'absolument extraordinaire. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en lui disant, lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Si j'avais été Philippe, je pense, peut-être en bon français, j'aurais dit au Seigneur, écoute, est-ce que tu t'es pas tout à fait trompé d'orientation ? Il y a là des gens à Samarie dont je m'occupe, il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, il y a même des miracles qui se sont produits, nous le voyons dans le texte, vous pourrez le relire un peu après. Et voilà que tu m'envoies dans un endroit désert. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans un endroit désert ? Mais Philippe n'est pas comme cela. À l'appel de Dieu, il dit simplement, le texte nous dit, et c'est Luc qui nous rapporte cela, hein, fidèlement, ce médecin, ami de l'apôtre Paul, il se leva et il partit. Que faire dans le désert ? Mais le Seigneur avait tout prévu. Il y a là un homme, éthiopien, païen, qui revient de Jérusalem et qui rentre dans son pays, en Afrique, qui lit la parole de Dieu, et qui ne connaît pas, et d'ailleurs vous remarquez que c'est un Éthiopien, un païen qui se tourne vers Dieu, et en plus c'est un homme qui n'avait même pas le droit de rentrer dans le temple, puisque c'était un eunuque qui était considéré comme un arbre sec. Mais il aimait le Seigneur malgré tout, même s'il ne comprenait pas tout. Et en tout cas, le diacre Philippe, je pense, a été le fondateur de l'autostop biblique à l'époque où il vivait. Dans le désert. Mais qu'est-ce que je vais faire dans le désert ? Mais il y a là cet homme qui passe. Et sans doute qu'il devait passer avec ses chariots, avec ses serviteurs. C'était quand même le premier ministre, le ministre des Finances de la reine Candace. Donc un homme hyper important dans le royaume éthiopien. Et il était là. Et Dieu va déplacer Philippe de quelque chose qui semblait être une réussite avec la ville de Samarie, dans le désert pour simplement un homme. Et donc il marche à côté de ce char, et puis l'autre est en train de lire, et Philippe lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ? Non, je ne comprends pas, et s'il n'y a personne pour me l'expliquer, comment je vais pouvoir comprendre ? Et Philippe va donc monter dans le char, et va expliquer à cet homme le merveilleux message de l'Évangile, puisque cet homme était en train de lire, en fin de compte, le prophète Ésaïe au chapitre 53, et il ne comprenait pas pourquoi. Et Dieu envoie Philippe dans le désert. Et Philippe est disponible au Seigneur pour aller dans un endroit où on ne penserait pas aller. On préférait plutôt aller à Jérusalem, dans la grande ville, ou dans les villes où il y a du monde, parce qu'on est sûr de rencontrer des gens, mais dans le désert. Et pourtant, c'est assez intéressant de voir que Philippe a obéi au Seigneur. Il a rencontré cet homme éthiopien. Il lui explique la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme comprend et dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il s'arrête là, dans un endroit désert, et il est baptisé. Et le texte biblique nous dit que cet homme va repartir tout joyeux dans son pays. C'est assez intéressant, si vous allez visiter le Saint-Sépulcre, donc à Jérusalem, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une lecture qui est autrefois été faite par un prêtre de l'église éthiopienne. Maintenant, c'est un système en boucle. Et on reconnaît dans sa lecture, justement, il y a la lecture d'Ésaïe 53 et puis de ce qui s'est passé dans Actes au chapitre 8. Comme quoi ça a marqué quelques 2000 ans plus tard. On parle encore de ce que Philippe a pu faire dans ce lieu désert vis-à-vis de cet homme. Cet homme qui était quoi? C'était un homme qui était rejeté. C'était un eunuque, un arbre sec. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple, ils étaient méprisés, ils ne pouvaient pas avoir de descendance, certains les considéraient vraiment pas comme des hommes même. Et pourtant, Dieu, lui, dans son amour, va s'occuper de cet homme-là, dans le désert. Et Philippe, qui est disponible pour servir lorsqu'il y a du monde, Philippe qui est disponible pour prêcher la parole de Dieu à Samarie, Philippe va être disponible pour la rencontre simplement avec une seule personne. Disponible pour aller là où Dieu veut. Et vous remarquez que dans le texte, un peu plus loin, au verset 39, et il nous est dit, il fit arrêter donc l'eunuque, le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus et il poursuivit sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva alors dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Philippe continue à être ce prédicateur de l'Évangile, disponible dans tous les lieux, dans tous les endroits, pour le Seigneur. Et puis on retrouve Philippe, et là vous tournez jusqu'au chapitre 21 du livre des Actes. Nous retrouvons Philippe quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, parce qu'il y a là Paul, avec son équipe, qui va loger chez un certain Philippe. Nous retrouvons cela, et je vous propose de lire. Donc il y avait des problèmes de navigation, et donc à partir du verset 8 du chapitre 21. « Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée, et là, nous sommes rentrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept. » Et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Nous retrouvons Philippe, dénommé maintenant l'évangéliste. Lui qui était au départ un simple serviteur, lui qui a été ce prédicateur de l'évangile dans la ville de Samarie, lui qui a été celui qui a obéi au Seigneur d'aller dans le désert, nous le retrouvons comme mentionné dans le livre des Actes comme Philippe l'évangéliste. Et nous voyons qu'il accueille Paul et son équipe. Grosso modo, entre 15 et 20 personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit accueil. Mais Philippe l'accueille chez lui et Philippe est disponible pour accueillir une équipe absolument merveilleuse, celle de Paul. Voyez un homme qui était au départ simplement disponible pour le service, qui a été disponible pour l'évangélisation de la ville de Samarie et ensuite l'organisation de l'Église, qui a été disponible pour partir dans un lieu secret, désert, mais pour y faire quelque chose d'absolument merveilleux avec cet eunuque qui s'est converti. Nous le retrouvons vers quelques décennies plus tard, accueillir les apôtres, accueillir l'équipe de Paul. Vous rappelez ce Paul, ce Saul de Tarse, qui avait été et qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Cet homme qui était un danger pour l'Église primitive, mais qui maintenant est porte-parole de l'Évangile de Jésus-Christ. Quelques 20 ans plus tard, nous retrouvons Philippe qui est prêt à accueillir les gens. L'hospitalité chez Philippe. Et je trouve très intéressant cet homme. Parce qu'en fin de compte, il a été disponible à Dieu dans moult situations. Il n'a pas commencé à discuter avec le Seigneur, mais il a simplement obéi à chaque fois. Et je me dis, qu'est-ce qu'il en est pour nous? membres de l'Église ou personnes qui sommes là dans l'Église de Petite Sainte. Est-ce que vous êtes disponible pour Dieu? Alors déjà vous l'êtes parce que vous êtes là ce matin. Mais ce n'est pas suffisant, parce que les chrétiens ne sont pas des chrétiens du dimanche. Mais est-ce que vous êtes disponible à Dieu pour le service dans l'Église? Pour vous engager dans tel ou tel ministère ici dans l'Église? Est-ce que vous êtes disponible et à bouger, à changer, parce que le Seigneur nous demande aussi d'accomplir un certain nombre de choses, mais de manière différente? Ou est-ce que vous êtes simplement là pour de ceux qui sont figés sur leur chaise? D'ailleurs, vous vous asseyez quasiment toujours à la même place chaque dimanche. J'ai même un jour visité une église où, en fin de compte, on m'a fait déménager parce que c'était la place utilisée par telle ou telle personne. J'avais pas vu d'étiquette, mais bon, voilà. J'ai changé de place. Ou est-ce que nous sommes là pour le service du Seigneur? Avec la joie. Parce que Philippe a été heureux de servir à table. Parce que Philippe a été heureux d'apporter l'évangile dans la ville de Samarie. Parce que Philippe a été heureux d'aller dans un endroit désert. Et parce que Philippe était heureux de recevoir Paul et son équipe. Après, la Bible ne nous parle plus jamais de Philippe. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Philippe ait été celui qui a répondu à l'appel du Seigneur et qui a été fidèle dans ce que le Seigneur lui a demandé jour après jour. Et nous voyons que les ministères ne sont pas figés, que nous pouvons ici ou là peut-être changer ministère, que nous pouvons ici ou là changer les choses. Mais qu'a fait Philippe en fin de compte? Il n'a fait que suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus a été disponible pour servir. Il a servi ses disciples. Il l'a même mis, nous dit le texte biblique, à la fin, juste avant de mourir, le comble de son amour pour ses disciples lorsqu'il leur a lavé les pieds. Il a servi à manger. Il a servi en guérissant. Il a servi son Père. Jésus a été disponible pour prêcher, nous le savons. Il a prêché aux Juifs, il a prêché aussi aux païens. Il a prêché dans les campagnes, il a prêché dans les synagogues, il a prêché à des foules entières, comme il a pris ce temps avec ses 12 apôtres pendant 3 ans et demi pour les former pour la mission qu'allait être la leur. Et puis Jésus a été disponible pour déménager, lui qui a quitté la gloire du Père, qui a partagé notre humanité, qui a été jusqu'au bout, qui a voyagé en Palestine, qui n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête, nous dit le texte biblique, et pourtant, qui a été jusqu'au bout, en acceptant même de monter sur cette croix, en acceptant de souffrir, mais ensuite il a retrouvé la gloire du Père. Il est assis à la droite de son Père, et la Bible nous dit qu'il va revenir. Donc il va de nouveau déménager pour nous prendre avec lui et pour nous amener dans la Jérusalem céleste. Et puis Jésus n'a-t-il pas été disponible pour nous accueillir? Il nous a tout pardonné. Il est notre avocat auprès du Père et il intercède encore pour nous aujourd'hui. Il est avec nous tous les jours. Un jour, il va nous accueillir dans l'éternité où il va nous dire « Bon et fidèle servante, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Alors, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes toujours sur la défensive dans le cadre de l'Église? Ou est-ce que nous sommes un petit peu comme cet homme qui a été pourtant le fondateur d'Apple, Steve Jobs, qui a créé des choses absolument magnifiques et qui a dit ceci peu de temps avant sa mort? J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Aux yeux des autres, ma vie a été un symbole de succès. Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. Je me rends compte que toutes les éloges et toutes les richesses dont j'étais si fier ont été transformées en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Car seulement maintenant, je comprends que nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse, qui ne sont pas liés à la célébrité ou à l'argent. Et la célébrité et l'argent que j'ai gagnés, je ne peux pas les emmener avec moi. Faites un trésor de l'amour pour votre famille, pour votre mari ou votre femme, pour vos amis, et occupez-vous de votre prochain. » Voilà les dernières paroles qu'a prononcées cet homme qui a fondé cette société, qui était un génie au niveau informatique. Il s'est rendu compte qu'il avait raté le coche. Et le problème, c'est que nous pouvons les uns et les autres rater le coche dans notre vie spirituelle. parce que nous ne sommes pas peut-être totalement disponibles au Seigneur pour ce qu'il nous demande faire. Peut-être un jour le Seigneur vous demandera d'être devant, mais peut-être après il vous demandera d'être derrière. Peut-être un jour le Seigneur vous demandera ceci ou cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous devons dire comme Henri de Monterland, l'homme doit faire une œuvre plutôt qu'une carrière. Nous n'avons rien à gagner en faisant carrière pour Jésus-Christ. Nous devons simplement lui obéir. Comme Paul, nous devons dire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et me semble-t-il, avec ce Philippe dans le livre des Actes, nous avons un bel exemple de quelqu'un qui a été disponible pour tout pour le Seigneur. Alors, quelle est ta disponibilité pour le Seigneur ? Est-ce que c'est le dimanche matin de 10h à midi ? De temps en temps, une réunion de prière dans la semaine ou une étude biblique ? Ou est-ce que tu es disponible pour le Seigneur en tout temps ? Ça coûte d'être chrétien, mais par rapport à ce que le Seigneur nous a donné, c'est un cadeau que nous devons lui faire. Et j'aimerais simplement vous lire cette prière que j'ai trouvée d'un puritain du XVIIe siècle qui disait ceci. « Je ne sais pas où je vais, un inconnu. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement écouter la parole de Dieu, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de plaire à Dieu lui plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et j'aimerais ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. Je crois qu'il me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je lui ferai donc confiance, même si je n'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Il est toujours avec moi. Je ne suis pas seul. Jour après jour, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » C'est ta prière ? La devise du Grand-Duché du Luxembourg est celle-ci. Nous voulons rester ce que nous sommes. Est-ce que ça ne devrait pas être le cas pour chacun d'entre nous ? Nous voulons rester ce que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, disponibles pour le Seigneur, dans les petites comme dans les grandes choses, dans les choses qui quelquefois nous paraissent un petit peu absurdes, comme se retrouver dans le désert pour parler simplement à quelqu'un. Mais Dieu sait, et nous avons besoin simplement de dire au Seigneur que nous lui donnons notre vie et qu'il en fasse ce qu'il veut. Prions. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai voulu prendre ma vie en main. Pardon pour toutes les fois où j'ai voulu faire pour paraître actif dans l'Église, pour avoir une place peut-être même dans l'Église. Apprends-moi, Seigneur, à être humble comme toi tu as été humble. Paul nous le rappelait dans cette épître aux Philippiens quand il disait que tu as été jusqu'au bout te rendant esclave de chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de regarder toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, à être disponibles pour toi. Nous ne savons pas ce que demain sera fait pour chacun d'entre nous, mais nous savons une chose, c'est que toi, tu nous attends pour que nous puissions te servir avec joie, pour que nous puissions aller de l'avant avec joie, et pour que l'Église ici puisse continuer à grandir pour toi. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été disponible pour toi. Pardon pour toutes les fois où j'ai critiqué ce qui était peut-être disponible pour toi. Donne-nous, Seigneur, d'avancer comme un seul, main dans la main, pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ dans cette région. Nous te demandons de nous aider et que nous puissions être comme ce Philippe qui a accepté de servir aux tables, qui a accepté de donner cette parole à Samarie, qui a accepté d'aller dans ce lieu désert pour se retrouver simplement avec un seul homme et qui a accepté ensuite d'accueillir. Donne-nous, Seigneur, de t'imiter, parce que tu es l'exemple suprême. Comme Philippe t'a imité, nous te demandons, Seigneur, que nous ayons l'humilité de marcher et d'avancer pour l'honneur et la gloire de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Amen.